RCF. RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF, c'est l'heure du 18-19 en région avec Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous et on est très heureux de vous retrouver dans le magazine régional qui reprend ses droits cette semaine, lundi, mardi et vendredi. Évidemment, il y aura des jours fériés, on pensera bien à vous le 8 mai, mercredi et puis jeudi à l'occasion de l'Ascension. Mais on est quand même heureux de vous retrouver avec nos amis de RCF, Cœur de Champagne du côté des Pernets, de Sainte-Menou, de Cézanne, de Vitry-le-François, de Châlons-en-Champagne bien évidemment. Et puis nos amis de RCF, Reims-Ardennes, à Reims, dans le Grand Reims, des communes aux alentours. Et puis dans toutes les Ardennes, à Charleville-Mézières, à Sedan, à Rethel, à Vouziers notamment. On a, avant de dévoiler le programme de ce soir, une pensée pour l'écrivain français Bernard Pivot, décédé ce jour à l'âge de 89 ans. Au programme, nous, de ce 18-19 en région, comment vit la société russe en 2024 ? C'est l'objet du regard sur le monde de Claude Ruiz que l'on retrouvera dans quelques secondes. Il est en train d'enlever sa veste et de s'installer en studio. On reprend les bonnes habitudes avec un maire qui nous parle, l'édile d'Auménancourt. Christophe Mahuet sera avec nous. Auménancourt, c'est une commune dans le département de la Marne. On aura un journal régional axé sur les nouvelles diocésaines avec notamment la clôture de la marche des vocations. C'était ce samedi en fin d'après-midi à la basilique Saint-Remi de Reims. Nos envoyés spéciaux étaient sur place. Christopher Fausten, Jean-Pierre Benoît ont recueilli un maximum de témoignages. On parlera musique avec les musiques du dimanche de retour à Châlons. C'est porté par Musique sur la ville. Patrick Le Guix, directeur de la structure, nous présentera tout cela pour le mois de mai. On reviendra une nouvelle fois sur la marche des vocations, mais cette fois avec d'autres témoignages, notamment ceux de Mgr Éric de Moulin-Beaufort et du père Denis Véju. Et puis nous serons également avec Marie-Claude Briet-Clément, qui est la présidente du Césaire Grand Est et qui présentera le retour du prix régional des solidarités rurales en 2024. Voilà pour le sommaire de cette émission que je suis très heureux de vous présenter et que je suis très heureux de partager ce moment avec vous. On commence donc ce 18-19 en Champagne-Ardennes en regardant sur le monde avec Claude Ruiz avec nous en studio. Claude, bonjour. Regard sur le monde avec Claude Ruiz avec nous en studio. Claude, bonjour.
Bonjour.
Avec cette question que l'on va se poser aujourd'hui, comment vit actuellement la société russe, si vous le voulez bien, après 2 ans de conflit russo-ukrainien. Nous allons donc jeter un regard sur l'évolution, nous allons le dire comme ça, de cette société russe. Claude Ruiz, que peut-on en dire si l'on fait une photographie ?
Voilà, alors on va faire cette photographie d'abord parce qu'il y a un prétexte, on est au lendemain de la Pâque orthodoxe.
Dont on a très peu entendu parler par ailleurs.
Exactement, ça n'a pas toujours été évoqué, on va dire par les médias nationaux, hein. On va parler comme ça. Ce qui, au passage, doit choquer un petit peu à la fois, je dirais, les Ukrainiens et d'autre part l'ensemble du monde orthodoxe, roumain, bulgare, etc., d'Europe en particulier orientale. Et on peut s'intéresser à la Russie parce qu'il y a eu beaucoup d'analyses, d'informations. Les journalistes sont repartis en Russie, voir comment ça fonctionnait, si la société se dégradait ou pas. On est d'abord actuellement dans une économie de guerre, mais certains disent une économie de guerre en croissance soutenue. Vous le savez très bien, la guerre demande du matériel, de l'argent, et donc ça stimule certains aspects économiques. C'est toujours un petit peu le cas quand il y a des conflits. Les analystes indiquent qu'en Russie, surtout, ce sont les grands centres urbains et Moscou qui fonctionnent à peu près normalement, où il n'y a pas de traces pratiquement de la guerre, parce qu'ils sont loin du front et parce que ces grandes villes continuent, comme beaucoup de villes du monde, à fonctionner, quelles que soient, je dirais, les tensions sociétales qui peuvent apparaître. Donc la société fonctionne, administration, magasin, théâtre, cinéma, service, si vous voulez, fonctionne un peu comme d'habitude. Peu de changements, mais en réalité, ça dépend de là où on est, ça dépend des différents statuts, des différents niveaux de vie. Là, c'est sensible, les inégalités sont toujours les mêmes, je dirais peut-être les mêmes qu'en Europe occidentale, et donc on s'aperçoit que les tensions existent. C'est pas parce que c'est calme qu'il ne se passe rien.
Claude Ruiz, vous faisiez en début de chronique un clin d'œil aux médias qui ont très peu parlé de la Pâque orthodoxe. Justement, les médias occidentaux, ils parient pourtant, par rapport aux éléments que vous nous donnez, eux, sur une dégradation de l'économie et de la société russe.
Oui, parce que c'est dans un contexte, on va dire, géopolitique, hein, donc on analyse. C'est même une justification des politiques pour essayer d'isoler ou de bloquer, en fin de compte, le fonctionnement de l'économie russe. Donc les observateurs regardent si ça se dégrade, puisque en fin de compte, c'est cette action qui est menée au niveau international. Mais on s'aperçoit que, comme je l'ai dit, les commerces fonctionnent normalement, ils sont correctement achalandés, en particulier pour les produits alimentaires. Alors ça s'appuie sur des produits locaux. Il y a même eu, vous le savez, une réorientation un petit peu de l'économie russe sur elle-même. Et elle est même devenue cette année, vous le savez, le premier exportateur mondial de céréales. Donc vous voyez, ça déséquilibre, mais ça rééquilibre par ailleurs, puisqu'il y a une adaptation. Et bien entendu, les Russes, comme beaucoup de pays aussi dans le monde qui sont gros consommateurs, ils importent beaucoup de produits. Et ça se fait en contournant les sanctions, qui sont parfois lourdes, je dirais importantes, on le voit en particulier dans le rapport entre Europe et Russie, ça veut dire que les sanctions ne sont pas toujours efficaces. Donc il faudrait peut-être réfléchir à ces sanctions. On note surtout un renchérissement des produits et le report de nombreux projets qui touchent surtout les catégories populaires, parce que ceux qui souffrent peut-être le plus dans certains secteurs, ce sont les catégories populaires.
Claude Ruiz, on regarde sur le monde avec vous et sur l'évolution de la société russe en particulier. Comment expliquer le peu d'efficacité des sanctions économiques, Claude Ruiz?
Je crois que souvent, il faut bien voir que les tensions avec la Russie, vous le savez très bien, on dit depuis 2 ans, en réalité depuis 2014, les tensions sont très importantes avec l'Ukraine. Et vraisemblablement, la plupart des analystes montrent que les sanctions ont été anticipées. Certains disent qu'il faut remonter déjà à 2008 où on voit que l'économie russe se prépare peut-être à un conflit ou du moins s'il y a une réorientation économique, elle peut s'adapter. Alors elle peut s'adapter sur le plan financier, elle a déjà réfléchi, vous le savez, à la rupture des grands systèmes internationaux financiers, du gel des avoirs bancaires, en particulier des banques occidentales. Donc par rapport en fin de compte à sa politique étrangère, elle a aussi mis en place un réseau d'alliés qui est ancien. Donc, vous savez ce qu'on appelle le club des BRICS. Vous savez, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Qui souhaitent un petit peu transformer le monde un petit peu ou transformer les institutions internationales, puisque ce sont ces institutions qu'ils critiquent. La Russie, elle a passé de nouveaux accords. Certains, eux, n'appliquent pas les sanctions. Ils condamnent. Les BRICS condamnent, par exemple, sauf la Russie, bien sûr, condamne les opérations militaires, mais ils n'utilisent pas les sanctions. Donc souvent, les entreprises aussi se sont déguisées pour rester sur le marché international. C'est le cas aussi de firmes, par exemple, allemandes ou françaises qui restent et qui fonctionnent encore en Russie, sans parler de l'afflux et du renouveau des liens entre la Chine et la Russie. Donc, de plus grandes difficultés, c'est surtout sur les secteurs technologiques, mais pour le reste, ça fonctionne à peu près normalement.
Claude Ruiz, on essaye de comprendre un petit peu tout ce qu'il se passe et encore une fois l'évolution de cette société russe. Cette résistance est-elle le fait de tout le pays ou finalement est-ce que l'on a une vitrine moscovite qui reflète finalement juste cette image et que ça se passe autrement ailleurs?
Je crois que vous avez raison d'insister sur les fortes inégalités. Très fortes inégalités, d'abord entre les régions, les grands centres urbains qu'on a cités tout à l'heure, favorisés avec, je dirais, des concentrations, en fin de compte, à la fois de richesses et de consommation, et des espaces qui sont dépressifs, où l'habitat est fortement dégradé. Il suffit de voir certaines périphéries. Alors moi, je n'y suis pas retourné depuis longtemps, mais dans certaines villes du centre de la Russie, les vieilles villes industrielles, on est quand même dans des difficultés qui sont considérables, même aussi pour les services. Donc on s'aperçoit que même s'il y a eu des efforts en Russie, on ajoute, si vous voulez, à ces inégalités de fait, le contexte de la guerre. Alors, la compensation pour les Russes actuellement, c'est une politique sociale. C'est-à-dire, ils ont relevé les salaires, les pensions, des primes à la maternité dès la première naissance, etc.
C'est le réarmement démographique à la russe.
Exactement. C'est le réarmement qui touche le social parce qu'on ne veut pas, justement, que les populations bougent ou se soulèvent. Donc, la population, pour l'essentiel, fait le gros dos. Elle espère surtout, je crois, dans la jeunesse qui n'a pas connu au passage le système soviétique et qui peut proposer peut-être une société meilleure.
Vous le savez, avant de vous laisser filer, Claude, on aime bien vous poser cette question, avoir toujours une ouverture. Que penser de l'avenir donc et comment peut évoluer cette société russe ?
Eh ben, on espère en fin de compte qu'on maintiendra les liens avec la Russie parce que la société russe demeure riche de potentiel. Mais le problème, c'est que ça soit dans le bon sens en espérant que cette éclosion viendra bientôt.
Merci Claude Ruiz de nous avoir permis de regarder sur le monde et on vous dit à très bientôt.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Et tout de suite, on retrouve Jean-Pierre Benoît et un de ses invités. On part à Auménancourt, dans la Marne, rencontrer un maire qui nous parle. C'est Christophe Mahuet ce soir avec vous, Jean-Pierre.
Christophe Mahuet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors monsieur le maire, c'est l'occasion pour nous de mieux connaître Auménancourt, votre commune et vous-même. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune, le nombre d'habitants et puis présenter un petit peu sa sociologie? Est-ce qu'on est agriculteur, retraité, jeune à Auménancourt?
Auménancourt, c'est une commune de 1100 habitants sur à peu près 13 km carrés, c'est-à-dire 85 habitants au kilomètre carré pour 4000 dans la région de Reims, pour se faire un petit peu la différence, la comparaison. Et on en trouve à peu près tous les types de la société. C'est tout à fait ouvert à tous. C'est une commune où il fait bon de partager et où chacun, dans les domaines d'activité différentes, peut y vivre. Il n'y a pas d'entre-soi au Auménancourt.
Alors une petite question, monsieur le maire, qui vient à l'esprit, c'est que c'est pas très très loin de Reims, au fond, au Auménancourt. Combien de kilomètres?
C'est à 10 km de Reims, c'est une commune que j'aime à dire d'ouverture, puisqu'on est à la fois à la limite d'un département et d'une région, puisqu'on est tout juste à la limite des Ardennes et de l'Aisne. Et donc l'Aisne, c'est les Hauts-de-France, donc une région voisine et un autre département.
Alors justement, on l'a vu au moment du Covid, monsieur le maire, c'est que il y a des personnes qui souhaitent quitter un peu la ville pour aller dans des villages qui sont agréables à vivre, qui ont une qualité de vie, très belle qualité de vie, où ils peuvent sortir, ils ont un petit jardin, etc. Et est-ce que vous le sentez vous-même, peut-être pas encore, mais est-ce qu'à Auménancourt, il y a des gens qui viennent s'installer?
Oui. Si, je dirais même pas, c'est même autre chose que pas encore, puisque on l'a senti assez vite après le Covid, puisque le Covid, ça a débuté il y a déjà 3 ans, et depuis la fin du Covid, environ un an et demi, l'immobilier à Auménancourt était très prisé. Une maison à vendre, il restait rarement plus d'une journée. Par contre, justement, c'est pour ça que je mettais un petit peu les guillemets, c'est que depuis quelques mois, je pense que la situation économique, la montée des taux de crédit fait que les choses sont dans
ça, ça rafraîchit un petit peu les initiatives. Alors, vous-même, monsieur le maire, vous êtes maire d'Auménancourt depuis plusieurs années.
Eh bien, 3 ans, nous avons été élus le 15 mars 2020 avec l'équipe de Auménancourt Autrement et puis installés quelques mois après, justement, Covid oblige une nouvelle fois, mais j'étais déjà adjoint le mandat précédent.
Alors, ça veut dire que cette passion pour l'investissement dans la mission publique, elle vous tient à cœur. Je veux dire, c'est presque dans votre ADN, Christophe Mahuet.
Ah, dans l'ADN, oui, je dirais même, ça doit même être dans les gènes, puisqu'il faut que ce soit familial. C'est un engagement qui se fait déjà avec mon épouse dans la vie associative. J'ai une fille également qui est pompier volontaire. Je pense qu'il faut le vivre ensemble en famille, puisque sinon ce serait irréalisable. Et puis après, bah oui, c'est le plaisir de servir et ça fait vivre des moments merveilleux.
Alors il faut dire que dans certaines communes, pas la vôtre, vous avez des maires qui hésitent à se représenter parce qu'ils disent quand même que la charge est lourde et les responsabilités aussi sont parfois importantes. Et puis parfois ils se font, comme disait un peu Gérard Larcher quand il parlait de apporter d'engueulade, c'est vrai que bon, quand on veut se défouler un petit peu, on a quelqu'un en face, c'est le maire quand même.
Oui, il disait exactement à portée de claque, Gérard Larcher. Et Gérard Larcher, heureusement qu'on l'a pour avoir un élu au niveau national sensible aux préoccupations des maires. Je vous remercie de faire la partie sur ce grand personnage de l'État. En effet, on n'est pas toujours très bien suivi par les élus nationaux qui nous donnent finalement énormément de contraintes. Et derrière ça, peu de moyens pour les passer en application. mais bon, on vit avec.
Mais est-ce qu'on peut dire que le maire, il est quand même un peu, quand même toujours, un peu le patron chez lui, même s'il y a un certain nombre de décisions qui peuvent être prises au niveau du Grand Reims ou dans d'autres communes, des communautés de communes?
Les communautés de communes, il faut, revenir, je pense, un peu justement ici aussi à la jeunesse de l'histoire. Les groupements ont été faits pour mutualiser et pour servir les communes. Qui devient parfois un petit peu gênant, c'est qu'il y a un retournement de situation et que ce soit l'inverse. L'intercommunalité doit être au service de la commune. Et ça, c'est un combat permanent, puisque aujourd'hui, en effet, les différents projets qu'on peut mener dans nos communes, les plus pertinents pour leur territoire, c'est obligatoirement les conseils municipaux qui les connaissent et qui doivent s'en saisir et les défendre. Jamais l'inverse, quoi.
Est-ce que vous avez actuellement, alors peut-être que vous avez déjà réalisé un certain nombre de choses, Christophe Mabé, mais est-ce que vous avez des projets en cours ou des projets à court, moyen ou long terme avec Ouménancourt?
Bien, on est en train de terminer un projet important qui est une première phase de la traversée d'Ouménancourt qui n'avait jamais été refaite depuis l'après-guerre. C'est une phase de voirie entière, c'est-à-dire de la route, de l'effacement de réseau, les éclairages, l'eau. Une phase qu'on a pu réaliser donc grâce au Grand Reims et puis surtout grâce à l'engagement d'un homme qui est notre président de département, Christian Bruyen, qui a été particulièrement extraordinaire avec nous sur le sujet. Il s'est défendu, il a suivi le dossier. Et donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 3 ans seulement que je suis maire, mais à l'époque il est venu sur place et il s'est engagé, il a tenu parole. Donc je tiens à en profiter de l'instant pour remercier cet élu qui a su tenir parole. Ensuite, donc sur les projet futur, eh ben, on a bien sûr les phases suivantes, la continuité de ce dossier. On a également fait l'acquisition d'un terrain derrière l'école pour pouvoir y installer une médiathèque. On a un projet de crèche qui avance pas mal. On vient de façon plus anecdotique, mais pas seulement, de contractualiser avec les boulangers de Bourgogne, les petits jeunes à côté de 25 ans qui se lancent dans une boulangerie depuis à peine un an, donc c'est très courageux. Et on a installé une machine à pain devant la mairie pour pouvoir leur donner un petit coup de pouce et puis également apporter un service supplémentaire aux habitants. On travaille également sur la vidéosurveillance, un dossier d'ailleurs qui en prenant mon mandat m'aurait paru complètement fou. Et malheureusement, la situation actuelle est telle que des communes comme Ménancourt doivent s'équiper de vidéosurveillance. Voilà un peu en gros les différents dossiers sur lesquels on travaille actuellement.
Christophe Mahué, c'est vrai qu'on dit que c'est très prenant, et ça l'est, les maires le disent, mais arrive-t-on facilement à concilier le fait d'être maire et la vie professionnelle, ou le fait d'être maire et la vie familiale?
Personnellement, j'y arrive, c'est plutôt une belle aventure, mais c'est une aventure qui est irréalisable en effet, parce qu'on n'est jamais seul, quoi. On fait finalement rien seul, et c'est parce que autant dans la vie professionnelle que dans la vie familiale et dans la vie d'élu, ce sont toujours des équipes où on ne fait rien dans l'engagement sans avoir derrière soi toute une équipe. Et j'ai une société familiale avec mes frères, on fait des équipements pour les travaux publics, et on est habitué à cet esprit où chacun travaille dans le même sens, et la répercussion de cet état d'esprit où il est finalement nécessaire d'être exigeant pour soi-même, mais particulièrement toujours tolérant avec les autres, ben je le répercute dans le conseil municipal. Et on a plutôt une belle façon d'avancer, mais j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe municipale et les agents qui font un travail remarquable.
Christophe Mabé, il nous reste 20 secondes, il suffit d'un mot. Êtes-vous un maire heureux, Christophe Mabé?
Très heureux, c'est la plus belle des missions. J'ai la chance, dans le cadre de ma fonction, de rencontrer de nombreux élus, et tous me disent qu'il n'est plus beau mandat que celui de maire.
Eh bien,
pas toujours simple, mais très bien.
Quelle belle conclusion dans cette émission. Votre maire nous parle, Christophe Mahué, maire d'Ouménancourt, un maire heureux avec nous sur RCF. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Il n'est pas tout à fait 18h30, on a pris un petit peu d'avance, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce lundi 6 mai 2024. Plus de 300 pèlerins de la province de Reims se sont rassemblés ce samedi à Reims pour la journée des vocations. Reportage. Nouvelle innovation du diocèse de Reims et des Ardennes, le Pélé Canoë à venir pour les 14-17 ans. C'est le tout dernier moment pour s'inscrire. Zoom sur cette initiative.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Les étudiants de Sciences Po Reims privés d'examen, en effet, ils n'ont pas pu passer leurs épreuves ce matin puisqu'ils étaient environ 150 étudiants à faire barrage des différents accès au campus des manifestants pro-palestiniens qui poursuivent une mobilisation entamée il y a plusieurs jours. Retour sur la journée provinciale des vocations à Reims avec Christopher Fausten.
Du 29 avril au 3 mai, les évêques de la province de Reims ont marché dans leur diocèse pour les vocations avant de se retrouver tous à Reims ce samedi 4 mai. Il est 9h20 au monastère Sainte-Claire à Cormontreuil. Le père Thibault-Marie Ruel donne le départ aux pèlerins du diocèse de Châlons et de Langres.
C'est le grand départ, direction la cathédrale de Reims. Bonne petite équipe, hein.
Oui.
Ça suit. Mais Langres, ils sont arrivés hier déjà et ils ont déjà marché dans leur diocèse.
Nous avons fait tout le parcours.
Ah, vous avez fait tout avec l'évêque?
Oui, oui, oui.
Ah bon? Vous êtes un peu fatigué alors?
Oui, un petit peu. On a été rincés avant-hier.
Je ne vais pas rincer à Reims.
Dans la joie et la bonne humeur, les pèlerins des sept diocèses se retrouvent en fin de matinée dans la cathédrale de Reims pour une démarche de pèlerinage avec une grande litanie des saints de la province ecclésiastique de Reims. Monseigneur Alexandre Joly, évêque de Troyes, nous explique le sens de cette démarche provinciale.
La question des vocations est vraiment le point de la prière, le point où cette question concerne tout le monde. Parce qu'en fait, l'Église, c'est pas quelques-uns, c'est pas que quelques-uns qui sont responsables, mais chacun y prend sa place. Et donc, ce qui a été très beau dans cette démarche, le fait que chacun d'entre nous, les évêques, on marche dans notre diocèse, c'est que nous ont rejoint tous ceux qui voulaient, avec des groupes qui se sont formés, des familles, des jeunes parfois, sous le soleil, la pluie, parfois des personnes âgées, des gens qui nous rejoignaient pour un petit bout, pour une journée entière, sur plusieurs jours. Et ça laissait vraiment apparaître que la question des vocations, qui en fait est le fait que Dieu nous appelle chacun et il nous donne une place dans l'Église, attendant de nous aussi la réponse à l'appel à la sainteté, que cette question elle concerne vraiment tout le monde, chacun en particulier et tous ensemble. Donc on sentait vraiment l'Église qui, à la manière du Christ, continue ce chemin en fait, de la présence du Christ dans le monde aujourd'hui.
Après le repas du midi, place aux ateliers, adoration, table ronde, chant, jeu et théâtre sur les vocations.
Vous avez dit Notre-Dame, j'ai un peu entendu parler des ateliers.
Il est 18h, les évêques et plus de 300 pèlerins se rassemblent à la basilique Saint-Rémy pour la messe de clôture présidée par l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, avec la participation du groupe Capharnaüm.
Un reportage de Christopher Fausten pour RCF. Les images de la journée provinciale sont à retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et X, anciennement Twitter, de RCF Cœur de Champagne. On parlera de nouveau de cette marche des vocations dans quelques instants avec d'autres invités, notamment Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, et le père Denis Véjus du diocèse de Châlons. Pélé VTT, camp ski et prière, et maintenant un Pélé canoë. Le diocèse de Reims et des Ardennes ne cesse d'innover pour accompagner les jeunes de notre territoire. À l'occasion du week-end de l'Ascension du 9 au 12 mai, ce sera une première. Une vingtaine de jeunes de 14 à 17 ans de notre diocèse pourront faire un pèlerinage à canoë à travers les Ardennes au départ de Sedan pour rejoindre le sanctuaire de Saint-Antoine des Hauts-Butées. À l'initiative de ce temps fort, Maxime Labesse, prêtre dans le diocèse, qui apporte quelques précisions.
C'est une proposition qui, dans la suite du camp ski prière et du Pélé AVTT, qui permet aux jeunes de vivre une expérience forte à la fois de vacances et en même temps de recherche spirituelle, de formation et encore une fois, comme le Pélé AVTT, de découvrir la richesse de notre beau paysage. Qu'on a d'abord recruté un moniteur qui a les diplômes nécessaires pour encadrer l'activité du canoë et qui sera avec nous pendant les 4 jours et c'est lui qui dirigera l'activité canoë. Et puis on est en itinérance, on campera de lieu en lieu comme on le fait avec le pèlerinage AVTT. Et voilà, on est accueillis dans différents lieux de notre diocèse, de différentes paroisses pour célébrer, être accueillis, découvrir ces lieux.
Coût du séjour, 190 euros, comprenant l'hébergement, la location de matériel, les repas et l'intendance. Et pour cette première, les sentiments sont mélangés entre excitation et appréhension.
Un petit mélange de tout ça parce que à la fois toujours très très heureux de pouvoir lancer de nouveaux projets et puis de pouvoir aider nos jeunes à pouvoir grandir dans la foi. C'est quand même notre premier projet et c'est ce pourquoi on veut faire cette proposition. Et en même temps quelques appréhensions parce que c'est une organisation nouvelle avec une activité nouvelle, un fonctionnement nouveau qu'il faut découvrir et on le fait en équipe heureusement. Donc voilà, c'est en même temps une belle aventure et on sera heureux de pouvoir rejoindre les paroissiens qui nous accueilleront particulièrement à Sedan, à la messe du lieu eucharistique le jeudi de l'Ascension. Et puis le dimanche 12 mai aussi, on sera au lieu eucharistique à Revin pour la messe paroissiale. Et ce sera des moments aussi où on pourra rencontrer les gens qui nous accueilleront.
Des propos recueillis au micro de RCF France Ardennes. Pour vous inscrire, c'est dès maintenant pour les dernières places disponibles à l'adresse mail, sans les accents évidemment, pele.canoe@catholique-reims.fr ou par téléphone au 07 48 90 88 88, le 07 48 90 88 88 ou par mail pele.canoe@catholique-reims.fr. Du sport et du football d'abord, avec deux ambiances différentes ce week-end. L'été dernier, le club sportif Sedan Ardennes vivait un cauchemar. Le club était relégué de 5 divisions et repartait en Régional 3 devant presque 2000 spectateurs venus garnir les travées du stade Louis Dugoguez. Sedan a poursuivi son sans faute en Régional 3 en dominant l'Entente de Charleville 4-0. Un nouveau succès qui permet aux Sangliers d'accéder à la Régionale 2 alors que le championnat n'est pas encore terminé. On reviendra sur cette soirée dans notre édition de demain. L'ambiance était plus pesante au Stade de l'Aube à 3 où à quelques minutes de la fin de la 36e journée de Ligue 2, les Troyens concédaient le nul face au dernier Valenciennes et entérinaient eux aussi leur chance de maintien. De quoi agacer les supporters qui ont jeté des fumigènes sur la pelouse. Certains joueurs les ont ramassés et les ont renvoyés dans les tribunes où se trouvaient les supporters, dont des familles. Heureusement, plus de peur que de mal. Sportivement, les Stags joueront en National la saison prochaine. En basket, le Champagne Basket continue d'affoler les compteurs. Pour s'assurer le meilleur classement possible à l'issue de la saison régulière de Pro B avant de disputer les playoffs, vendredi, c'est Vichy qui a subi les foudres de l'Alliance champenoise lors de la 33e journée, vainqueur 100-77. Par ailleurs, l'entraîneur Thomas Andrieux quittera le club en fin de saison. Le club souhaitait poursuivre l'aventure avec son coach actuel qui a préféré une autre suite. Il est annoncé avec insistance du côté de Roanne. Retour au parquet enfin. Dimanche, déjà assurés de leur maintien, les Flammes Carolo recevaient Landerneau en play-out. Les Ardennaises se sont inclinées 71-81 mais restent 9e à la première place de la poule basse. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Comme chaque année à Châlons-en-Champagne, le Festival des musiques du dimanche accueille au cœur de la ville les dimanches de mai des formations amateurs de qualité dirigées par des professionnels de haut niveau. Au micro de Christopher Fausten, Patrick Le Guix, directeur de l'association Musique sur la Ville, organisatrice de cette manifestation, nous présente le programme.
Bonjour Patrick Le Guix.
Bonjour.
Qu'allons-nous retrouver dans cette manifestation qui va se dérouler sur plusieurs dimanches du mois de mai ?
Nous avons trouvé, comme à l'origine de la manifestation, en 1994, un programme d'orchestre d'harmonie, brass band, big band. Et nous sommes vraiment dans les trois esthétiques, puisque nous allons ce dimanche 12 mai, à partir de 16h, place de l'Hôtel de Ville, place Foch, nous allons accueillir le Royal Harmony Orchestra Eupen. Alors je ne le prononce pas à l'allemande, puisque c'est une formation qui nous vient d'Eupen. Eupen, c'est une commune de la province germanophone de Belgique,
hein, d'accord,
à peu près les trois frontières.
On arrive à situer un petit peu
voilà,
plus.
Voilà. Avec un programme qui touche essentiellement aux brass bands, puisque c'est vraiment la tradition germanique et anglo-saxonne. Hein. Les brass bands, c'est essentiellement des cuivres à perce conique, pour les connaisseurs. Hein, et donc des percussions, mais aussi, bien sûr, des instruments de type bois, donc les clarinettes, etc.
Oui.
Donc ça, c'est l'orchestre Eupen qui va programmer, enfin, il va nous proposer un programme très ouvert, évidemment emprunt de cette culture d'harmonie et de fanfare d'Europe centrale, on va dire, avec évidemment du grand répertoire. Et comme pour toutes ces formations, une forte propension à aller chercher dans le répertoire de musique de film ou de jazz, qui se prête admirablement à ces formations. Donc très cuivrées, très soufflantes en fait, avec des cuivres. Mais ce sont des formations importantes, hein, qui sont qui vont de 40 à 60 personnes. Là, on
sera,
et avec un évidemment un niveau artistique très important pour des amateurs encadrés par des grands professionnels.
Donc ça, ce sera ce dimanche 12 mai. Mais ce rendez-vous musique du dimanche va se dérouler non pas sur un dimanche, mais trois dimanches.
Oui, trois dimanches, puisque le 19 mai, nous accueillerons le Champagne Jazz Orchestra, donc encore une formation inédite sur le festival.
Oui.
Alors eux, ils viennent de la région de Troyes, avec, là pour le coup, c'est un gros big band de jazz, en fait, avec un répertoire qui s'y prête. Donc là, on est dans la musique, là, à l'origine, c'est les années 40, 40, 30, 40, 50. Bon, revisité, puisque là, il est plus question de jouer comme à l'époque, et avec évidemment une reprise du grand répertoire, y compris de la variété internationale, sous la forme de jazz, avec les instruments classiques, donc la section rythmique, contrebasse ou basse, piano, batterie, peut y avoir une guitare, et puis il y a la section saxophone complète, la section de trompette et la section de trombone, voilà, et puis une ou deux voix en fonction de l'esthétique choisie par le chef d'orchestre. Une belle formation qui inédite, je l'ai dit, et qui se produira donc à 16h comme tous les dimanches sur le parvis de la mairie, en fait. À savoir que tous ces concerts trouveront refuge dans l'église Saint-Alpin avec l'autorisation de la paroisse en cas de pluie, d'intempéries, menace d'orage ou du vent violent qui envolerait les partitions.
On n'est jamais à l'abri. Et donc le dernier dimanche, le 26 mai ?
Alors le 26 mai, traditionnellement, nous essayons de conclure avec l'harmonie de Châlons en Champagne, hein, puisque c'est aussi une forme de soutien à ces pratiques amateurs d'ensemble qui participent de notre projet artistique et culturel, soutenir ces formations, et nous avons soutenu depuis l'origine l'harmonie de Châlons dans son déploiement, mais aussi, et ça sera en première partie, il y aura un projet du conservatoire de Châlons en Champagne, c'est la réunion de l'harmonie du conservatoire de Châlons en Champagne, donc du conservatoire, et l'orchestre de l'école de musique d'Épernay, donc un final en deux parties, ambitieux et toujours extrêmement joyeux.
Merci. Parfait. Patrick Lewix.
Merci à vous.
Bon lancement pour ces rendez-vous musique du dimanche. Merci Patrick Lewix.
Merci à Patrick Lewix et Christopher Fausten depuis le studio RCF à Châlons-en-Champagne. Plus d'infos sur le site de l'association musiquesurlaville.com. Attention, musique au pluriel, avec un S, il y a bien deux S qui se suivent. musiquesurlaville.com.
Le 18-19 sur RCF.
Chose promise, chose due. En complément du sujet journal entendu il y a quelques minutes, on revient sur le pèlerinage des vocations provinciales qui s'est tenu la semaine dernière. Il s'est achevé samedi à 18h à la basilique Saint-Remi de Reims. Jean-Pierre était sur place avec Christopher Fausten que vous avez entendu tout à l'heure. Il a rencontré Mgr Éric de Moulin-Beaufort et le père Denis Véju.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et bonjour à toutes.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on arrive au terme de cette semaine de pèlerinage pour les vocations. On a eu le plaisir de vous avoir plusieurs fois cette semaine. Maintenant, on peut faire un premier bilan tout de même. Quel est-il, Monseigneur ?
D'abord que ça nous fait du bien à nous, évêques, de marcher chacun dans son diocèse et vraiment de marcher, c'est-à-dire de prendre du temps, d'être détaché de nos ordinateurs, nos téléphones qui nous dispersent en fait et qui nous obligent à traiter toutes sortes de choses. Bon, aujourd'hui, on peut regarder un petit peu quand même ce qui nous rejoint pour pouvoir traiter les affaires urgentes. Mais voilà, cette concentration nous fait du bien. Ce temps de prière aussi, je crois vraiment, nous a tous fait du bien. Et puis, ce qui a été un premier élément très, très frappant, ça a été un peu la joie de tous ceux qui nous ont accompagnés, je crois, qui ont été heureux de participer à cette démarche. Et pour nous, évêques, c'est important de sentir aussi que tous les chrétiens portent ce souci, ce désir qu'il y ait des vocations, qu'il y ait des ouvriers pour la moisson.
C'est vrai, souvent, on a entendu dire que des séminaristes devenus prêtres ou des prêtres, un jour, ils ont été interpellés par quelqu'un qui lui ont dit « Pourquoi pas toi ?» Et c'est vrai que cette interpellation, elle est importante.
Oui, tout à fait. De fait, il faut oser franchir. Personne ne se sent digne de lui-même. Ce n'est pas un métier qu'on choisit tout seul et pour soi seul. Donc effectivement, il faut qu'il y ait... un événement est souvent la parole de quelqu'un d'autre qui nous conforte dans ce que peut-être on pressent au fond de son cœur, de son être, mais qu'on n'ose pas se dire à soi-même. qui est que Dieu nous appelle à le suivre, à servir plus spécifiquement et plus radicalement son évangile.
Et au-delà des vocations elles-mêmes, ce fut l'occasion pour vous, vous en connaissiez déjà beaucoup, d'aller à la rencontre de diocésaines et de diocésains qui forment toujours cette famille diocésaine à laquelle on peut être particulièrement attaché.
Tout à fait, la vie chrétienne suscite des hommes et des femmes de foi, dont moi personnellement qui me remplit d'admiration. Et pendant tous ces jours de marche, les personnes que j'ai rencontrées m'ont souvent émerveillé par leur persévérance, par leur courage, par leur générosité, par la délicatesse de leur cœur, de leur regard, par leur capacité à exprimer avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de clarté, leur engagement de foi, et puis leur engagement au service des autres. Il y a quand même une quantité de service, d'attention aux autres portés par des chrétiennes et des chrétiens qui est assez impressionnant.
Présence aussi des 7 évêques de la province, ça aussi, c'est important.
Bien, je pense que ce signe d'unité de toute la province, en tout cas, le signe d'unité entre les évêques et le fait que plusieurs églises particulières portent ensemble ce souci des ouvriers pour la moisson est un signe important parce qu'une caractéristique du christianisme, c'est toujours l'unité, non pas l'uniformité, non pas la contrainte, mais l'unité par le mouvement intérieur de l'amour.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques jours. Je crois que vous allez aller à Madagascar quelques jours pour...
lundi, mardi, je suis au Conseil permanent à Paris et après je pars à Madagascar jusqu'à dimanche soir pour rencontrer la conférence des évêques de Madagascar.
On aura l'occasion, merci Monseigneur, de vous retrouver juste après.
Merci Jean-Pierre et merci à tous et à toutes.
À très bientôt. Après Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, mais aussi président de la Conférence des évêques de France, je vous propose de retrouver le diocèse de Châlons avec son administrateur apostolique, le père Denis Véjus, qui est avec nous aujourd'hui. Père Denis Véjus, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs.
Vous êtes à Reims aujourd'hui dans notre studio parce que vous participez pour le diocèse de Châlons et avec vos diocésains au pèlerinage des vocations. Les 7 évêques de la province se retrouvent. C'est un grand moment pour la province de se retrouver comme ça à Reims et de faire cause commune en quelque sorte.
Absolument. C'est un moment rare. C'est une première en quelque sorte. On se retrouve par exemple pour des temps de formation avec les prêtres, mais pas pour une action spirituelle aussi forte et qui a été préparée. L'accomplissement, le point d'orgue aujourd'hui à Reims a été préparé dans la plupart des diocèses par une marche pendant toute la semaine pour pouvoir prier pour les vocations. Sillonner, les évêques ont sillonné leur territoire, leur diocèse, pour entraîner leur peuple à la prière pour les vocations.
C'est vrai qu'on manque, on en parle souvent, de prêtres dans les diocèses, on le sait bien. Et c'est vrai que dans chaque diocèse, il y a aussi des lieux de prière et de rassemblement où vous pèlerinez. Vous, c'est surtout très souvent à Notre-Dame de l'Épine, il faut le dire. Et dans quelques jours, ce sera le cas.
Absolument. Donc la semaine dernière, le diocèse était à Lourdes, 400 pèlerins. Voilà. Et puis, dimanche 12 mai... C'est le pèlerinage diocésain à l'Épine, voilà, qui est aussi évidemment avec la thématique.
On démarre de Châlons, on démarre de d'Épernay, tout le monde convient vers l'Épine.
Non, il y a deux grands lieux de marche qui sont depuis Saint-Mémy, voilà, la ville où est enterré le fondateur du diocèse, l'évêque fondateur du diocèse. Ça, c'est à quelques kilomètres, 5-6 kilomètres de l'Épine. Et puis, il y a une marche un peu plus légère qui part de Melette dans les environs de l'Épine, plutôt pour les familles, les personnes qui ont plus de difficultés à marcher. Mais évidemment, tous les diocésains sont invités à nous rejoindre. Et en général, c'est un grand moment de ferveur populaire, de prière pour les vocations. C'est bien le thème aussi de cette année à l'Épine. Et puis de rassemblement diocésain, parce que depuis qu'il n'y a plus d'évêques chez nous, c'est-à-dire depuis maintenant 5 mois pratiquement, les occasions de se rassembler sont quand même pas nombreuses. Et donc c'est un grand moment de rassemblement diocésain. Je suis quand même content d'être venu avec 20-25 pèlerins du diocèse ici à Reims pour prier avec tous les évêques et tous les diocèses.
Pour terminer, Père Denis Véjou, souvent on entend dire, quand on interroge des séminaristes, ils se disent « j'ai eu la vocation, j'ai ressenti un appel, je me souviens que j'ai réfléchi, j'ai cheminé, comme on dit, mais surtout parce qu'un jour quelqu'un m'a interpellé ». C'est vrai que cette interpellation, on a plutôt du mal, peut-être dans le monde d'aujourd'hui, en 2024, à la formuler. Et pourtant, ce genre de rencontre, pour des plus jeunes, elle peut être l'occasion pour des parents, des grands-parents, de dire ben, « pourquoi pas toi si ça t'intéresse ?» Et ça, ça peut retentir à l'intérieur de soi-même.
Mais tout à fait. J'étais assis là, pendant le repas de midi devant deux jeunes de la paroisse, du diocèse. Et qui m'ont dit, mais alors comment ça se passe, la vocation, ils parlaient entre elles, est-ce que tu sais un peu ce que tu veux faire, est-ce que, voilà. Hein. Donc forcément, c'est l'occasion de se poser les grandes questions, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, hein, comment on veut la rendre belle en la donnant.
Merci pour ces témoignages recueillis sur le terrain au micro de RCF France Ardennes samedi.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Une dizaine de minutes à passer ensemble ce soir sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes. Pour la 32e année, le Conseil économique, social et environnemental du Grand Est lance le prix régional des solidarités rurales. Objectif, récompenser les structures dont l'action dynamise les zones rurales. Pour nous en parler, Marie-Claude Briet-Clément, présidente du César Grand Est, en ligne avec Christopher.
Marie-Claude Briet-Clément, bonjour.
Bonjour Monsieur Faustin.
À qui est destinée concrètement cette opération ?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité à en parler. Le prix des solidarités rurales, dont nous fêtons cette année la 32e édition, est destiné en fait aux associations, aux collectivités, aux entreprises, aux groupements qui sont en milieu rural et dont l'action, je dis bien l'action, pas le projet, puisque notre prix récompense des actions déjà réalisées. D'accord. Et qui sont dans un système de pérennisation. Donc, en fait, tout acteur, public ou privé, qui œuvre dans un esprit d'utilité sociale à des actions de dimension économique, sociale, environnementale, dans les communes rurales de l'ensemble du Grand Est.
Lancé dans un premier temps en Champagne-Ardennes, puis sur tout le Grand Est, Marie-Claude Briet-Clément, combien de structures ont été récompensées et à quel prix ?
Combien de structures depuis sa création ? C'est 166, donc depuis 1993. Pour en fait des fonds mobilisés à hauteur de pratiquement 1 300 000 euros. Nous avons 6 partenaires qui effectivement mobilisent leurs fonds hein, dans le cadre des mécénats d'entreprise aux côtés du conseil régional. Nous avons effectivement le groupe La Poste, le groupe EDF, la Banque des Territoires, AG2R La Mondiale, la Foire de Chalon, et je crois n'en avoir pas oublié aujourd'hui.
En tout cas, ce sont des fidèles partenaires depuis de nombreuses années.
Ah, ce sont des partenaires depuis de nombreuses années et nous avons un partenaire historique qui co-organise avec nous l'ensemble du dispositif du prix qui est la Ligue de l'enseignement et ça nous y sommes extrêmement attachés. Dans l'ensemble des candidatures et des entreprises ou des collectivités primées, le plus grand nombre de structures primées, ce sont des associations, et notamment les associations d'utilité sociale qui œuvrent autour des questions liées à la solidarité, un prix des solidarités rurales. Donc les solidarités intergénérationnelles, les solidarités autour des questions liées à la mobilité en milieu rural, qui est un enjeu majeur, des solidarités liées aussi dans le cadre des coopératives et autres, dans la création d'entreprises en milieu rural, des belles créations. Hein. Je pense notamment à la coopérative Saint-Folia hein, qui continue à grandir autour des questions liées à la culture du Saint-Foin et à toutes ses fonctions vertueuses. Je pense aussi à toutes les actions liées à la mobilité. Je pense aux actions liées notamment à l'accès à la culture. Oui. aux vacances, aux loisirs, qui sont essentiels dans le bien-vivre en milieu rural.
Marie-Claude Briet-Clément, comment va se dérouler cette 32e édition du Prix des Solidarités Rurales ?
Alors, c'est une des originalités du César Grand Est. C'est que, une fois que nous avons remis les prix, en fait, on a une espèce de timing. Oui. Du 1er avril au 30 juin sont les candidats qui doivent remettre leur dossier. Donc, en remplissant un dossier dématérialisé sur le site du César Grand Est, soit en s'adressant à notre partenaire, la Ligue de l'enseignement dans chacun des départements. J'insiste sur cet aspect-là parce qu'effectivement, nos partenaires de la Ligue de l'enseignement sont là pour aider et accompagner les candidats dans la constitution de leur dossier. Ensuite, pendant l'été, les dossiers sont instruits et à partir du mois de septembre à novembre, se met en place le système de sélection. Dans un premier temps, le jury, donc composé de l'ensemble de nos partenaires, de membres du conseil régional, oui, de membres du César, sélectionne 12 dossiers qui semblent les plus intéressants. Ces 12 candidats sont auditionnés. Donc là, nous les rencontrons et ils nous expliquent plus avant, au-delà du dossier, quelle est leur action. Et donc, en fait, la cérémonie de remise des prix aura lieu en 2024, le 21 novembre, au siège de la Ligue de l'enseignement à Metz, parce que c'est central. Mais une des originalités de notre démarche, c'est que l'année suivante, nous allons à la rencontre des lauréats. Actuellement, et ça fait l'objet aussi du temps de lancement, nous allons à la rencontre des lauréats 2023. Et je peux vous assurer que ce moment-là est un moment pratiquement encore plus magique, puisque nous découvrons bien au-delà du dossier la richesse et les pépites et les solutions qui sont mises en œuvre au sein de tout petit territoire du monde rural du Grand Est. Et pendant ce temps, nous avons aussi, et ça c'est très important, oui, un temps de rencontre, non seulement bien évidemment avec les acteurs, mais avec les représentants des communautés de communes qui, 95 fois sur 100, sont aux côtés, que ce soit sur le plan fonctionnel, que ce soit sur le plan financier, de nos lauréats. Mais aussi dans le cadre de France Ruralité, nous sommes désormais accompagnés à chaque fois du sous-préfet ou de la sous-préfète en charge des ruralités dans chacun des départements. Donc c'est à nouveau un moment coup de projecteur qui est pour nous extrêmement intéressant. Et puis tous ces lauréats, en fait, notre objectif c'est d'en constituer un réseau, puisque nous allons à nouveau à leur rencontre au sein de nos travaux. Et par exemple, cette année, à l'automne, nous allons avoir deux temps extrêmement importants. L'Agora de la Foire de Chalon, qui va être, oui, dédiée à l'économie sociale et solidaire, une chance pour la vitalité du monde rural. Et dans ce cadre-là, je vous rappelle que nous sommes effectivement dans le 10e anniversaire de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Ça nous semblait important de donner un coup de projecteur, puisque beaucoup des structures primées sont des structures de l'économie sociale et solidaire. Et nous allons faire appel, dans le cadre de ce colloque, à nouveau au témoignage de nos lauréats. Et puis, à la fin du mois de septembre, c'est le Congrès des régions de France à Strasbourg et en amont, l'Assemblée générale de tous les Césaires de France. Et là, à nouveau, nous allons nous appuyer sur nos lauréats pour des temps de rencontre, oui, qui sont aussi pour nous très importants, puisque aujourd'hui, ce prix qui est né dans notre région, d'abord en Champagne-Ardenne, et puis qui a essaimé sur tout le Grand Est, est désormais mis en place dans les Hauts-de-France. Et il y a une vraie réflexion au niveau de l'ensemble des Césaires de France pour que ce prix devienne un prix des Césaires de France dans un certain nombre de régions.
Eh bien, en tout cas, très belle initiative avec un très beau réseau que vous venez de nous présenter, Marie-Claude Brier-Clément. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, présidente du Césaire Grand Est. Et donc, pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Césaire Grand Est. Merci, Marie-Claude Brier-Clément.
Et merci à vous aussi, évidemment, Christopher Fausten. Les candidatures se font via un formulaire dématérialisé sur le site internet du Césaire Grand Est. La date limite, le 30 juin 2024. Merci pour votre fidélité au magazine régional. Avant de se quitter, pendant le journal, on a donné une adresse mail et un numéro de téléphone pour les parents et grands-parents qui souhaiteraient voir leurs enfants ou petits-enfants participer au Pelé Canoë organisé à l'occasion du week-end de l'Ascension du 9 au 12 mai. On rappelle le coût du séjour, 190 €. Si on prend contact ce soir, il est encore temps de participer et d'obtenir une des toutes dernières places disponibles. pele.canoe@catholique-reims.fr ou par téléphone 07 48 90 88 88. On se retrouve demain 18h10 pour un nouveau magazine régional. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.